RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
L'émission en français avec Inès Azagra et Guillermo Bravo.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue un jour de plus à l'émission en français de Radio Exterior d'Espagne.
Le cinéma francophone débarque à Madrid encore une fois avec la Muestra de Cine Francófono qui se déroule à la Cinéthèque du Matadero à partir de cet après-midi. Elle commence avec la projection du film Rue, une adaptation du roman homonyme écrit par Kim Thuy, basée sur sa propre expérience quand elle a dû fuir son Vietnam natal et passer par un camp de réfugiés en Malaisie avant d'arriver au Canada.
J'en ai 26, je pense qu'ils sont aussi à la famille que moi.
J'imagine.
Je voudrais souhaiter la bienvenue à nos nouveaux...
Kim Thuy sera présente au Matadero pour l'inauguration de cette édition 2024 qui propose des films venant de plusieurs pays différents et qui nous donne un aperçu global de la francophonie jusqu'au dimanche 17. Carmen Mata et Alain Lefebvre sont les co-directeurs de la Muestra.
Pour mettre la femme... en lumière, que ce soit devant ou derrière la caméra.
Certaines comédies, mais un peu moins. Il y a des films d'animation. Et c'est vrai qu'on a une constante, donc non seulement féministe, mais aussi humaniste.
Restez avec nous jusqu'à la fin pour écouter l'interview toute complète et tout de suite après le journal de l'actualité.
À la technique, comme toujours, Juan Morello, et au micro et dans vos oreilles, Inés Azagra, Guillermo Bravo, et à la production, Cristina Dorado.
Con que tristeza miramos. Un amor que se nos va, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
Passons au journal de l'actu sur Radio Extérieure Espagne.
Où que vous soyez.
Nous commençons en Espagne où le mercredi, les affaires de corruption ont marqué les échanges entre les deux principaux partis pendant la session de contrôle au gouvernement dans le Congrès des députés.
Si depuis quelques semaines, l'affaire Coldo sur les commissions illégales des masques a marqué les attaques de l'opposition envers le gouvernement, ce dernier a trouvé le moyen de contre-attaquer lorsqu'on a su que le partenaire de la présidente de la région de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a gagné plus de 2 millions d'euros dans une affaire similaire.
Es rendir cuentas ante estas Cortes Generales creando una comisión de investigación y asumiendo sus responsabilidades políticas. Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid.
Pedro Sánchez a demandé au leader de l'opposition Alberto Núñez Feijóo d'exiger la démission de la présidente de la région de Madrid pour l'implication de son partenaire dans cette affaire de commission illégale pour la vente de masques pendant la pandémie et il a souligné que son parti a collaboré avec la justice dans l'affaire qui touche un de ses membres en soutenant la création d'une commission d'investigation parlementaire.
Su gobierno pagó por mascarillas que la trama convirtió en mordidas. Afecta a su gobierno, a su partido y probablemente a usted. Seguro que en su casa no están muy contentos con lo que usted acaba de decir.
Núñez Feijóo, qui avait déjà dit dans une émission de radio que si le partenaire d'Ayuso était accusé, il devrait répondre devant l'agence du Trésor, visait à relier personnellement le président à l'affaire de corruption connue comme affaire Coldo. En outre, la session a brillé pour l'absence de mesures en positif et a été limitée à cet échange d'accusations et de reproches.
D'autre part, le commissaire de justice de l'Union européenne, Didier Reynders, a cité mercredi le ministre de la présidence, Félix Bolaños, et l'eurodéputé populaire Esteban González Pons pour parvenir à un accord et débloquer l'organe supérieur du pouvoir judiciaire.
Le Conseil général du pouvoir judiciaire demeure bloqué depuis plus de 5 ans et ses membres agissent depuis lors en intérim, une situation qui préoccupe l'Europe et sur laquelle le gouvernement socialiste a essayé d'agir depuis son arrivée au pouvoir. Le Parti populaire bloque sa rénovation et exige participer au choix des membres malgré que ce n'est pas de sa compétence. Bruxelles considère que ce blocage constitue une atteinte à la qualité démocratique en Espagne et demande aux partis de se mettre d'accord au plus vite, une thèse reprise par le gouvernement espagnol et répétée par Bolaños.
De la mano de la Comisión Europea para intentar lograr de una vez por todas ese acuerdo que es imprescindible para el funcionamiento del Servicio Público de Justicia y para la normalidad institucional.
C'est la troisième réunion programmée dans ce sens, mais les partis demeurent divisés sur la solution à prendre. Le Parti populaire veut modifier la loi qui régit le Conseil général du pouvoir judiciaire en même temps qu'il est renouvelé, mais...
Urgente que se proceda ya a la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Y lo que obliga la Constitución es a renovar en plazo.
Les associations de juristes ont aussi soutenu la thèse du gouvernement de miser sur une rénovation urgente.
Dans l'international, Haïti demeure sous un état d'insécurité permanente. Les rues sont toujours en flammes en attente de voir comment sera implémenté le conseil présidentiel de transition après que le premier ministre Ariel Henry ait finalement accepté de démissionner.
Les États-Unis et l'Union européenne ont déjà évacué leurs représentants face à l'effondrement du système déjà fragile avant les révoltes. John Lee Anderson, expert en politique haïtienne.
Lo que estamos viendo es un colapso generalizado. Ya los pandilleros tienen el poder. Queman vivo a la gente. Violan en pandilla, en grupo, grupalmente, a todas las mujeres que encuentran.
La situation est totalement anarchique et le pic de violence est arrivé à des niveaux inhumains. Les meurtres, les viols et la violence ont atteint un degré de cruauté inimaginable.
Nous terminons en Jordanie. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, a été dans un camp de réfugiés palestiniens de ce pays pour montrer le support de l'Espagne à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens.
Álvarez a rappelé que la Jordanie accueille en ce moment 2,5 millions de réfugiés palestiniens et il a souligné le travail indispensable de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés de ce pays.
UNRWA es una organización absolutamente indispensable y ofrece educación a más de 100.000 estudiantes en Jordania, provee de atención médica primaria a casi 1 millón de pacientes.
Il l'a qualifié d'indispensable et a remarqué son travail au service de l'éducation et de la santé des réfugiés palestiniens. Le cinéma est un des arts les plus aimés par les Espagnols. C'est pour cela que la Muestra de Cine Francófono est un des événements cinématographiques les plus attendus dans Madrid. Il se tient au Matadero, un des centres culturels pluridisciplinaires installés dans un des quartiers les plus verts de la capitale, près du Manzanares, le fleuve madrilène, et ses espaces intérieurs et extérieurs offrent une infinité de possibilités. C'est pour cela que depuis plusieurs années, c'est l'endroit dans lequel se tient cet événement, qui rapproche le cinéma francophone, pas seulement le français, de la citoyenneté madrilène, nous faisant découvrir des métrages singuliers et personnels qui nous rapprochent les cultures des pays dans lesquels le français se parle couramment. L'Alliance française de Madrid organise cet événement, co-dirigé par Carmen Mata et Alain Lefebvre. Ils sont venus à nos studios pour parler de ce festival de cinéma qui réunit chaque année les enthousiastes du cinéma francophone à Madrid. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous ?
Bonjour.
Bonjour.
Alors, nous sommes déjà à la 9e édition de la Mostra de Cine Francófono, presque une décennie de cinéma francophone à Madrid. Et avant de parler sur la programmation de cette année, je voulais que vous nous donniez votre impression sur la progression de ce festival dans le temps.
C'est intéressant comme question, hein, pour commencer. C'est vrai que l'année prochaine, nous fêterons les 10 ans, même si... je dirais que cette année, ça aurait pu être la 10e édition parce que nous n'avions pas pu la faire à cause du Covid. Mais pour l'année prochaine, nous voulons faire un très très beau festival pour célébrer cet anniversaire. Alors, la progression, je dirais que dès le départ, nous avions les idées claires. Nous voulions faire un festival qui puisse... réunir les réalités et les talents des différentes cinématographies des pays francophones. Et tout de suite, nous sommes mis d'accord aussi sur une optique très féministe pour mettre la femme en lumière, que ce soit devant ou derrière la caméra. Et au fur et à mesure des années, finalement, on a été fidèle à ces principes. Et je crois que le public a toujours répondu présent. Et ça nous a conforté dans nos idées. Alors, je pense que ces 10 années, enfin ces 9 années, sont un, on va dire, un voyage à travers la francophonie. Qui est très très enrichissant et on a un public qui revient tous les ans et qui a pu, c'est peut-être un peu présomptueux de notre part, enfin de ma part, de dire qu'on a pu comme ça éclairer certaines personnes qui ne seraient jamais venues dans une salle de cinéma pour voir un film documentaire et qui à la fin d'une séance... Eh bien, il vient nous voir en nous disant « Merci, c'était incroyable, c'était super. Dorénavant, on ira voir plus de documentaires. »
Ibrahima Dieng, monte de Khabar Bounerla Indalo. Benna Manda. Nyari yo parile nyugi.
Manda.
Oui, donc il y a des documentaires, il y a des drames, il y a certaines comédies, mais un peu moins. Il y a des films d'animation. Et c'est vrai qu'on a une constante, donc non seulement féministe, mais aussi humaniste. Donc le problème du monde, c'est une ouverture à des problèmes tels que les réfugiés, l'immigration, les problèmes de la jeunesse, les problèmes, évidemment, on disait bien sûr, féministe, c'est-à-dire la femme, que, par exemple cette année en Tunisie. Tous ces problèmes auxquels nous sommes très sensibles et que nous, dans nos articles, dans nos cours, dans d'autres espaces que nous fréquentons, nous en parlons et nous développons. Donc c'est intéressant parce que ce sont des sujets auxquels la société est sensible. C'est une fenêtre à trois continents, en fond. Donc l'Amérique francophone, évidemment, il y a Haïti, il y a le Canada, le Québec, et il y a donc l'Afrique et l'Europe. Et on voit que la diversité des langues aussi à l'intérieur, parce que c'est francophone, mais la francophonie actuelle, c'est aussi donc un dialogue des langues, et parfois, du point de vue identitaire, les créateurs, dans ce cas les réalisateurs, tiennent à ce que les langues, telles que le Wolof, Bambara, etc., évidemment l'arabe, soient présentes dans des films qui sont francophones. Mmh. Donc, il y a un dialogue des langues, et c'est très intéressant. Donc, une approche plurielle du point de vue culturel, du point de vue linguistique, du point de vue humaniste et des valeurs, ça constitue une constante depuis le début jusqu'à maintenant. Après, on découvre nous-mêmes des réalisateurs et surtout des réalisatrices, parfois des jeunes réalisatrices, qui après se confirment souvent, ou qui viennent une deuxième fois avec un deuxième ou troisième film. Donc c'est aussi intéressant de voir comment nous avions bien visé notre objectif.
Nous reviendrons un petit peu plus tard aussi sur l'approche linguistique, parce que je pense que c'est tout à fait important pour ce festival. Mais nous avons parlé de plusieurs sujets, aussi de plusieurs genres, et donc je pense que c'est le temps un peu de passer peut-être à la programmation. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des films de cette année, sans bien sûr nous faire de spoilers, parce qu'il faut les regarder.
Oui, ben, je pense que tous les ans, on essaye de varier les films, de proposer au public différents genres. Donc, ils trouveront des films de fiction, des films documentaires, et un film d'animation qui sera proposé le dimanche matin pour toute la famille.
Allez en Sarabie.
Ernest, allez en route pour la Sarabie. Wouhou!
Ah, c'est les signes.
Je pense que notre programmation, comme disait Carmen, est un regard sur les problématiques du monde. On propose un vrai voyage et on encourage les spectateurs à voir différents films, non pas seulement un seul film, mais à revenir pour justement élargir, non, un peu leur regard sur la francophonie, sur les réalités francophones.
Oui, et il y a toujours, c'est-à-dire plusieurs invités, normalement des réalisateurs, mais dans ces cas, il y a aussi une écrivaine qui a collaboré à l'adaptation de son roman éponyme, donc le même nom, rue. Et il y a ces diversités et donc il y a normalement deux ou trois créateurs, disons, avec lesquels nous avons des débats, des rencontres, ce que nous appelons des rencontres, pour approfondir, pour voir la genèse des films, mais aussi pour approfondir les sujets, pour voir la trajectoire, les raisons pour lesquelles ces réalisateurs ou surtout réalisatrices ont développé les sujets. Donc c'est fort intéressant, cet aspect aussi.
Sur ce plan-là, moi je pense que Carmen et moi on se complète. parce que Carmen travaille au quotidien sur les civilisations francophones. Moi, je m'intéresse plus au cinéma, je suis un professionnel du cinéma. Donc, on a deux approches quand on reçoit nos invités et on peut aborder des sujets différents et très intéressants. Et je pense que le public apprécie qu'on puisse parler et aussi bien du fond que de la forme. Mmh.
Je pense que cette complémentarité entre deux co-directeurs et deux co-fondateurs aussi de ce festival est très très importante parce que justement vous apportez chacun votre perspective et chacune est génuine et apporte quelque chose de nouveau avec plus de présence que l'autre.
Et oui, parce qu'il y a la création, la réflexion, le monde académique, le monde de la cinématographie. Il y a tous ces mondes qui sont à l'intérieur de ce creuset et qui dialoguent. Donc, nos identités professionnelles et nos passions aussi dialoguent. Donc, ça, c'est bien. Mm-hmm.
Et pour cette 9e édition, il y a des films, comme vous disiez Carmen, venus de 3 continents différents, des réalisateurs et des réalisatrices originaires de plusieurs pays, très différents entre soi, présentent des films qui, dans plusieurs cas, font un portrait des réalités qu'ils ont connues, finalement, non ? Et comment cette multiplicité de narratives et d'histoires enrichissent-elles la francophonie, à votre avis ?
Oui, c'est-à-dire la francophonie actuelle, elle reflète, elle traduit toutes ces trajectoires donc des gens qui viennent d'ailleurs, non ? Comme c'est le cas des réfugiés, des immigrants, etc. Et donc dans le cas par exemple de films, mettons Rue par exemple.
J'en ai 26. Je pense qu'ils sont aussi affamés que moi.
J'imagine.
Au nom de tous les habitants, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos nouveaux concitoyens.
Mon nom est Nguyen Anh Tinh et celui de ma fille Nguyen Anh Tinh.
Tinh. Tinh.
Moi, c'est Lisette. Juste Lisette.
Cette adaptation du roman de Kin Thuy, une femme qui, lorsqu'elle était enfant, a fait les voyages en tant que réfugiée, en tant que membre des Boat People, c'est-à-dire avec sa famille, évidemment, elle, c'était une enfant, et qui a été accueillie par le Canada, officiellement par le Canada, qui sont allés au camp des réfugiés en Malaisie et qui ont choisi, enfin, qui ont accueilli différentes familles. Et donc là, c'est vrai que son œuvre à elle reflète d'une façon très intéressante c'est l'évocation de sa trajectoire et comment la renaissance qu'elle a éprouvée, c'est-à-dire à partir des expériences de familles plutôt bourgeoises, après camp des réfugiés, une expérience très éprouvante et l'hospitalité dans un milieu dont elle ne connaissait ni la langue, ni la culture, ni même, elle parle aussi des problèmes de nourriture, c'est-à-dire de s'adapter à une nourriture nouvelle, etc. Et elle sent dès le début, dès son enfance, qu'elle va grandir comme personne, ce qu'elle fait après. Et donc et là, par exemple, ce film, c'est une avant-première, et donc là, c'est un film qui a beaucoup de succès dans les festivals actuels, parce qu'elle est devenue une écrivaine best-seller, et tout en ayant travaillé comme couturière, restauratrice, traductrice, ou plutôt interprète, et avocate. Donc c'est quand même, on voit le pays qui l'a accueilli et les trajectoires de résilience d'une personne qui a passé par des expériences très dures, mais qui à un moment donné même est retournée à travailler au Vietnam, c'est-à-dire à Hanoï, pour collaborer à la constitution de son pays alors qu'elle l'avait quitté, ou plutôt la famille s'est enfuie. Donc c'est très intéressant, comme ce sont des personnalités fort intéressantes. Et les cas de Bye Bye Tiberias, donc cette réalisatrice Lina Soualem donc les familles viennent d'un côté algérien et l'autre côté palestinien, avec sa mère qui est une grande actrice, mais qui appartient à la diaspora palestinienne, parce qu'elle a quitté la Palestine. Donc ce sont évidemment des sensibilités qui nous enrichissent comme êtres humains, parce qu'il y a le témoignage et il y a la recréation, et on nous fait partager des expériences et des sentiments. Donc c'est très important, en fait.
Quelque chose à ajouter peut-être, Alain ?
Non, dire que le cinéma en soi est un outil exceptionnel justement pour pouvoir poser des questions, pas apporter des solutions, des réponses, parce que qui sommes-nous pour vraiment donner des leçons, mais si le cinéma permet de se poser des questions, eh bien ce sera vraiment un film en tout cas réussi de ce côté-là. Et notre festival voilà, propose une programmation de films qui pose des questions, qui interpelle le spectateur. Et c'est aussi une sorte de confiance qu'on fait dans l'acte de filmer, non, dans l'acte de création du cinéma. Et il y a un autre film qui s'appelle les filles d'Olfa, Las Cuatro Hijas, de Kauter Benania, un film tunisien qui est sorti en salle mais qu'on veut récupérer pour le festival, parce que c'est un film très important qui est d'ailleurs nommé aux Oscars comme dans la catégorie du meilleur documentaire, et qui grâce disons à l'acte de filmer, au cinéma, la mise en scène, ce film nous fait réfléchir sur énormément de questions.
Oui, et parmi les personnes qui dirigent ces projets, les réalisateurs, les réalisatrices, il y a beaucoup de réalisatrices, justement. Le cinéma francophone, on peut dire qu'il est à jour, non, en matière d'égalité de genre, peut-on dire. Et je pense que la Mostra des Cine Francophones est un très bon exemple, parce que justement, vous avez invité trois personnes qui vont venir, c'est deux réalisatrices et l'écrivaine du livre duquel est inspiré l'autre film, Rue, qui est l'écrivaine a aussi participé dans la production du film. Qui sont ces personnes qui viennent? Parlez-nous d'elles un peu, et qu'est-ce qu'on peut attendre de leur présence dans le festival?
Moi, je dirais, pour reprendre la première question sur la parité, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est-à-dire que, d'un point de vue global, d'un point de vue général, le monde cinéma doit encore énormément travailler pour cette parité. Je ne sais plus exactement les chiffres, mais je crois qu'on est peut-être en France autour de 16%, en Espagne un peu moins. Notre festival est plus généreux de ce côté-là. On aime et on souhaite vraiment pouvoir mettre en lumière les talents des femmes réalisatrices qui sont très 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 intéressantes. Au fil de ces années, on a pu découvrir des talents, des réalisatrices québécoises qui nous ont absolument, mais alors, abasourdis. Il y a un tel talent, et c'est dommage que je dirais que la plupart de ces films ne trouvent pas de distribution en Espagne, et que le festival en soi constitue une opportunité, une occasion de voir les films, parce que tous ces talents n'ont pas de place sur les écrans ici en Espagne. Alors nous, oui, on fait un effort pour que dans notre programmation, il y ait une forte présence féminine. Et je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Peut-être Carmen a quelque chose à dire.
Oui, mais c'est-à-dire, j'ajouterais, parce que c'est vrai que dans cette diversité de pays qui sont invités, qui participent, parce que c'est les ambassades aussi qui collaborent, qui nous appuient, etc. C'est vrai qu'il y a aussi des différences du point de vue sociologique. C'est-à-dire, le Canada, c'est vrai que le féminisme est beaucoup plus puissant depuis un bon moment, donc depuis les années au moins 60-70 du 20e siècle. Donc, c'est sûr que là, par exemple, on a fait venir à d'autres comme invité Sophie Deras, Panaïs Barbeau-Lavalette, etc. Donc, c'est-à-dire des femmes qui sont importantes dans la cinématographie québécoise. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés où la parité est plus évidente que dans d'autres. La vieille Europe, c'est sûr que c'est pas pionnier, elle n'est pas pionnière, mais enfin. Donc par rapport aux trois que nous avons invités, donc c'est très intéressant parce que, évidemment, ce sont trois profils complètement différents, c'est-à-dire une Suisse qui vient de, enfin qui a une double nationalité hongroise et suisse, donc qui a fait des films aussi où il y a parfois des langues différentes, et il y a Lina Soalem qui a étudié d'abord histoire à la Sorbonne et qui au début ne pensait pas à devenir réalisatrice, mais c'est, même si elle avait été actrice alors que sa mère était réalisatrice, donc elle connaissait très très bien le monde de la réalisation, mais donc elle fait des documentaires qui correspondent à un travail de mémoire qui est quand même une sorte de profil qui s'approche des sciences sociales, non? Et son premier, c'était donc sur l'Algérie, c'est-à-dire la partie de sa famille qui vient du monde de l'Algérie et dont les grands-parents étaient immigrants en France. Et maintenant, c'est l'hommage à aux racines palestiniennes. Donc là, c'est comme une réflexion autour des origines, mais en même temps hommage et travail de mémoire. Par exemple, le film sur l'Algérie qui nous avons passé dans notre festival, donc avec sa présence et sa participation active, donc là c'était aussi l'hommage à des Algériens qui étaient venus travailler comme ouvriers et dont parfois le travail n'est pas reconnu. Donc son grand-père avait travaillé dans l'usine, et donc c'est ça. Et Kintui, c'est un profil comme nous avons dit différent, elle a bien travaillé, elle parle avec enthousiasme du travail avec Charles-Olivier Michaud, donc le réalisateur, et il y a eu une entente formidable, une redécouverte de l'univers, donc mais c'est donc un profil, comme j'ai dit, réfugié, immigré, etc. Donc ce sont trois profils différents, très intéressants, et continents différents aussi.
Oui, d'ailleurs, on arrive à la fin du temps qu'on a pour l'interview. J'aurais aussi voulu parler un petit peu plus des aspects linguistiques qu'on disait avant, parce que c'est vrai que par exemple en Espagne, dans les dernières années et encore plus, avec plus d'intensité cette année, on a vu comment les langues co-officielles prennent de la place dans le cinéma espagnol. Il y a eu pas mal de films qui ont gagné des prix cette année dans les Goya qui se sont passés il y a à peine un mois. Et voilà, il y avait beaucoup de films qui étaient tournés ou intégralement ou en partie en galègue, en catalan, même en basque, qui est une langue très différente. Donc je pense que voilà, que le wolof, que le bambara, ou que les langues d'autres pays dans lesquels d'autres pays francophones influent dans cette culture est toujours très positif et nous permet de comprendre un petit peu mieux les personnes de ces pays et ces pays en général. Mais la dernière question que je vais vous faire à tous les deux, c'est justement par rapport à ce qu'on parlait de Lina Soalem et son film Bye Bye Tiberias. C'est un film qui relève de l'affaire de Palestine, un territoire qui risque de ne plus appartenir à ses habitants dans pas très longtemps. Et je retourne un peu la question, est-ce que l'art ou le cinéma, et le cinéma plutôt, peuvent échapper à la politique ?
Non, échapper à la politique, pas du tout. Je crois que nous avons même, par exemple, dans mon domaine de recherche où je travaille sur ces aspects, sur la violence, la guerre, la répression, l'immigration, les réfugiés. Donc, et que je viens de faire une conférence autour de cette responsabilité que nous avons en tant qu'intellectuels. C'est-à-dire, nous avons la responsabilité de faire réfléchir sur notre propre responsabilité par rapport à l'évolution des problématiques politiques, c'est-à-dire il faut collaborer à la réflexion, à la recherche, à la dénonciation, apporter des voix ou des moyens, des lucidités critiques. Moi, je crois que que ce soit la littérature, que ce soit le cinéma, que ce soit les médias, enfin, on est tous, on doit tous collaborer, participer à la réflexion pour que au moins il n'y ait pas d'ignorance dans le monde et qu'on se rende compte des conséquences parfois de la négligence ou de l'absence de responsabilité internationale par rapport à ces problématiques.
Moi, à un autre niveau, j'aimerais ajouter que faire du cinéma, c'est faire de la politique. Parce que c'est un regard sur le monde. C'est pas un autre, c'est le regard de la réalisatrice, du réalisateur. Et rien que ça, c'est prendre la parole, c'est dire quelque chose sur le monde. Et pour moi, ça, c'est déjà faire de la politique. Donc, c'est indissociable.
Oui, je pense que c'est une très belle réflexion, donc on va rester justement sur cette réflexion-là. Carmen Mata et Alain Lefebvre sont co-directeurs et co-fondateurs de la Muestra de Cine Francófono, qui se passera entre le 14 et le 17 mars au Matadero de Madrid. On vous attend tous là-bas. Merci à vous pour être venus nous la présenter.
Voilà, merci.
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 C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine, Guillermo.
À la prochaine, Inès. À samedi.